I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte et je suis accompagné de mon ami Arnaud Bordas. Salut Arnaud.
C'est moi-même, bonjour.
Voilà, pour parler d'un film français et, une fois n'est pas coutume dans Stéroïdes, d'un bon film d'action français. Un film qu'on aime bien, qui s'appelle Les Spécialistes de Patrice Lecomte. Ça te fait rire quand je dis un film qu'on aime bien, toi.
Un film qu'on aime bien.
Ben voilà, c'est un film qui est plutôt pas mal. Les Spécialistes, on aime.
Ouais, c'est un film de notre enfance.
Pour de vrai,
quoi.
Hein, pas comme Parole de flic, qu'on aime pour de vrai aussi, mais pour de faux. Tu vois, là, c'est on aime pour de vrai, pour de vrai.
Ouais, ouais. Et puis, bah, c'est-à-dire, c'est un film de notre enfance. Moi, je me rappelle, j'avais l'affiche qui était bien badass là dans ma chambre, toi. Hein, j'avais eu dans Pif Gadget, je me rappelle. Et c'était impossible, mais ils l'ont fait. Il y avait écrit dessus. Et donc voilà, ouais, ça a été un film d'aventure de notre enfance, français, avec deux grosses stars de l'époque. On était un peu à une période de bascule, là, c'est-à-dire d'ailleurs Belmondo ou Delon, je ne sais plus, l'un des deux l'a dit après, quoi, plus tard. C'était Lecomte qui a raconté ça sur Une Chance sur Deux, là, son film où il réunissait Belmondo et Delon. Et oui, en fait, ils avaient été très vexés à l'époque par le succès, parce que c'est quand même un film qui a fait 5 millions d'entrées à l'époque, hein, c'était énorme, par le succès du film, et qu'ils avaient pris un coup de vieux avec ce film en disant, bah voilà, c'est la jeune génération, ça y est, elle est là, nous, on doit tirer.
Oui, parce que Lambin et Giraudeau à l'époque, c'était la trentaine, quoi.
Ouais, ouais, voilà, ouais, ils étaient assez jeunes, ils étaient en pleine forme, ils avaient du charisme, tout ça. Et donc, voilà, c'est vrai que ça a été le grand film d'action français de quand on avait 10 ans, on va dire, quoi, 8-10 ans, quoi. Et puis, c'est toujours appréciable de voir des films d'enfance comme ça sur lesquels tu reviens après, puis tu te dis, ah, ça tient toujours la route. C'est sympa, c'est bon esprit comme film. Donc, non, ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de parler de ce film, quoi.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un film qui passait quand même très régulièrement à la télé quand on était gamin. Beaucoup moins maintenant, j'ai l'impression, quand même, malgré tout, quoi. Même s'il y a un Blu-ray qui est sorti l'été dernier. Donc, c'est quand même un film qui existe, en fait, encore une fois, qui est pas effacé du paysage du cinéma français, comme pas mal de films d'action de cette époque-là, mine de rien, de cinéma policier, quoi.
Ben, au point qu'ils envisagent d'en faire un remake à l'heure actuelle.
Tout à fait, écrit par Guillaume Le Mans.
Écrit par Guillaume Le Mans, qui était officiel, venu dans un de nos podcasts.
C'est pas nous qui...
Non, je crois qu'il me semble qu'il en a un peu parlé publiquement, sinon tant pis, désolé.
Tant pis pour lui. tant pis, Guillaume.
Mais donc oui, effectivement, c'est un film qui est resté dans les esprits. Alors peut-être qu'il repasse pas aussi régulièrement que ce que tu disais à l'époque où on était ado, étudiant ou je sais pas, toi. Mais c'est vrai que c'est un film qui est quand même resté dans les esprits. Et puis voilà,
classique TF1, quoi. C'est ça que je veux dire.
Ouais. Non, encore une fois, c'était 5 millions d'entrées. C'était l'équivalent, même à cette époque-là, vers le milieu, on arrive au milieu des années 80. Belmondo et Delon, ils étaient sur le point de ne plus connaître de tels succès, quoi, hein. Vraiment, c'était pour un film d'action avec des jeunes acteurs comme ça, c'était inespéré, quoi.
Le pitch, Arnaud,
ouais, j'allais te dire, peut-être on va pitcher un peu.
Je te l'ai demandé, mais t'as fait genre non, j'ai pas entendu.
Ouais, j'ai botté en touche. Ouais, c'est très facile le pitch, hein. C'est
ouais, alors t'as 30 secondes.
Eh ben écoute, alors c'est l'histoire d'un gangster qui s'appelle Stéphane Carella, qui est joué par Gérard Lanvin, qui est évacué dans les gorges du Verdon, qui est convoyé par des gendarmes dans une camionnette. Il s'arrête sur le bas-côté parce qu'il y a une autre camionnette de gendarmes qui convoyait un autre prisonnier qui a crevé, ou je sais plus, qui a eu un ennui technique. Les deux prisonniers, donc l'autre prisonnier, c'est Paul Brandon, qui est joué par Bernard Giraudot. Ils sont tous les deux mis sur le bas-côté, et puis en fait, ils sont menottés par les gendarmes pour les tenir tranquilles. Et puis Paul Brandon, Giraudot, donc.
Ça fait 30 secondes.
Embarque, ne me trouble pas pendant mon pitch, Stéphane, j'ai besoin de concentration.
Il l'embarque malgré lui, ils sont menottés, il l'embarque malgré lui.
Il l'embarque comme ça, de force, quoi, pour s'échapper, là, ils sautent dans les falaises, là, ils sont poursuivis par les gendarmes. Donc c'est pas mal aussi parce que c'est quand même un gros film français qui débute plein pot d'entrée.
Bien en tête.
Par sans doute la scène la plus spectaculaire du film, quoi, et qui est longue en plus, quoi. Et donc voilà, bon, après, ouais, on peut dire quand même que Brandon, enfin Giraudot, a en tête une idée bien précise, c'est-à-dire il a le casse du siècle dans un casino à Nice, ou à Menton, je sais
pas. Non, à Nice.
Ouais, c'est à Nice, mais c'est filmé au casino de Menton, en fait. Mmh. Et excusez-moi, je rentre dans les détails demain.
On sent le spécialiste.
Voilà, voilà. Et donc il a cet objectif, ce casse du siècle, et puis il va entraîner Carella avec lui, quoi. Voilà. Et on va dire que en fait c'est un peu ce jeu du chat et la souris auquel il se prête les deux personnages pendant une partie du film où il y en a un qui veut pas, l'autre qui veut, et puis finalement ils finissent par se convaincre l'un l'autre. Il va y avoir un troisième larron, on va dire, c'est une nana qui va les recueillir dans sa maison, tandis qu'ils sont traqués par la police, et puis qui va en fait, par vengeance aussi, par esprit de vengeance un petit peu, s'allier à eux pour faire ce casse. Voilà.
C'est incroyable parce que t'as mis donc 2 minutes. J'ai regardé sur le chrono là-bas, t'as mis 2 minutes pour pitcher le film.
C'est ça un artiste.
Un artiste, c'est 30 secondes. Alors... Film d'action français, premier film d'action pour Patrice Lecomte.
Ouais.
Et même quasiment seul film d'action en vrai pour Patrice Lecomte.
Hein, bah, il y a une chance sur deux, mais c'est un film d'action de papy, quoi.
C'est vrai. Et puis,
mais c'est vrai qu'ils font quand même quelques scènes d'action.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Changement de genre surtout, parce qu'en fait, Patrice Lecomte, c'était le spécialiste de la comédie du Splendide, quoi. Mm. En tout cas, il était vraiment connu pour ça. À part Les WC et Terre fermée d'intérieur qu'il avait fait en premier film avec Rochefort et Coluche. Pour lequel ça s'était pas très bien passé avec Rochefort. En gros, le Comte, il était connu pour Les Bronzés et sa suite, notamment. Mmh. Mais après, d'autres films comme Circuler, il n'y a rien à voir et ce genre de choses. Quoi.
Ouais, qui est nettement plus poussif. Mais il y a Viens chez moi, j'habite chez une copine, qui était
aussi,
son premier...
Ouais, avec Giraudot.
Voilà, avec Giraudot et Michel Blanc, qui allait venir en renfort sur l'écriture des spécialistes et dont on sent bien la patte, enfin, on en reparlera peut-être après.
Avec des punchlines, notamment. Mais voilà. C'est vrai que... Alors, ce qui est intéressant aussi avec ce film, c'est que à la base, c'est une commande de Christian Fechner, en fait.
C'est un vrai film de producteur.
Voilà, c'est un vrai film de producteur, c'est une commande. Il y avait un scénario à la base, en fait, qui a été réécrit, donc, par Lecomte, De Wolf et
Alors, il me semble, moi, qu'il a commandé le scénario, Fechner, Christian Fechner, le producteur, mais qu'à la base, il avait l'accord de Giraudot et Lanvin sur simplement un film avec un film d'action avait tourné dans le sud, sur la Côte d'Azur, avec un casse.
Alors, je me permets de citer donc le scénariste à l'origine, qui était Bruno Tardon, que les gens connaissent pour Plus beau que moi, tu meurs, de Philippe Clerc. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir de Philippe Clerc. Bon, après, il a fait Cayenne Palace.
Un petit peu le David Mamet français, quoi.
Et il était un peu sur Une chance sur deux. Mais bon, voilà, quoi.
Non, mais voilà, le truc, c'est je pense que Fechner, après, il a pris ce mec pour écrire le scénario, mais le deal de base, c'était ces trois éléments là, dans la narration. Lanvin Giraudot qui avait donné leur accord parce qu'ils s'appréciaient tous les deux, ils imaginaient bien de se faire un film ensemble. Et puis à partir de là, bah Fechner, il a fait écrire un scénario et il est allé voir Lecomte. C'est-à-dire, Lecomte raconte souvent, il l'a appelé et je crois qu'il l'a fait venir à son bureau. Et puis il a dit voilà, j'ai ça, toi, Giraudot, Lanvin, Côte d'Azur, film d'action, ça t'intéresse ? Et Lecomte a dit banco, on y va. Et c'était Lecomte, il dit souvent, parce que il dit que dans sa carrière, les gens lui disent souvent bon, ben, le tournant, ça a été Tandem, quoi, qui est arrivé, qui est le film d'après, en fait, quoi. Et il dit non, pour moi, le vrai tournant, ça a été Les Spécialistes, parce que c'est-à-dire, c'est un film où quelque part, il s'est révélé à lui-même, il le dit, quoi. C'est-à-dire, il venait de la comédie, il pensait qu'il était fait que pour ça. Et puis là, Fechner lui propose ça, il dit tiens, film d'action, bah pourquoi pas. Et puis il s'est éclaté à le faire, quoi. Et il s'est dit c'est cool, je sais le faire, en fait, quoi. Et voilà, quoi. Donc,
et on lui a proposé que des films d'action, d'ailleurs, derrière. Et en fait, lui, il était emmerdé parce qu'il voulait vraiment faire Tandem. C'est un film que personne ne voulait faire.
Ouais, quoi. C'est quelqu'un, je pense, tranquillement, en fait, sans désir de prendre les gens à contre-pied, toi. Mais c'est quelqu'un qui a toujours désiré ne pas aller là forcément où on attendait qu'il aille. Il avait envie de tenter, en tout cas, différentes expériences, hein. Et voilà, et c'est pour ça que ouais, par la suite, il a pas voulu forcément tout de suite refaire un film d'action et qu'il s'est orienté vers les films qu'il a fait ensuite, tu vois, Tandem, Le mari de la coiffeuse, Monsieur Lyon.
Et qui ont exactement les mêmes mérites que Les Spécialistes et voir les comédies d'avant. C'est-à-dire, en fait, pour moi, Patrice Lecomte, c'est un peu le cinéaste de la simplicité. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un, et je dis ça, c'est une qualité, c'est une vraie qualité, en fait.
C'est ce qui est le plus dur à obtenir. Hein.
Voilà, c'est ça. Et en fait, cette simplicité qui comment dire, dans certains films, hein, comme Le mari de la coiffeuse ou Tandem, en fait, touche à la grâce, en fait. C'est-à-dire, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de... C'est inexplicable d'arriver à avoir un équilibre aussi subtil, en fait, si tu veux, avec des sujets hyper casse-gueule. En tandem, c'est très casse-gueule. Le Marie de la Coiffeuse, c'est très casse-gueule. Les spécialistes, c'est un film... pour le coup, beaucoup plus balisé, on va dire, si tu veux. C'est un buddy movie, hein, clairement. Mais par contre, en fait, il n'y a pas d'ironie, en fait, à l'idée de faire le film. Il le fait vraiment avec un travail. Alors, il a son équipe à lui, hein, c'est-à-dire qu'il a Patrick De Wolf au scénario et Michel Blanc. Donc, De Wolf, il a quand même écrit avec lui Tandem plus tard.
Il a beaucoup écrit avec lui.
Hein. Voilà.
Ridicule, je crois que c'était
non,
lui.
Non, Ridicule, aussi, c'est non pas lui, non. C'est Rémi Waterhouse. Et pour le coup, si je dis pas de bêtises, en fait, le comte n'a rien retouché sur Ridicule. Il a vraiment tourné le scénario tel quel. Par contre, Tandem, je crois, Tango, Monsieur I. Enfin, c'est des films qui sont écrits par De Wolf, me semble-t-il. Et en gros, cette simplicité-là, en fait, si tu veux, c'est exactement ce qui manque, moi, à mon sens, hein, à tous ces films de genre français qui essayent d'exister aujourd'hui, tous les gros films, en fait, qui ressortent une fois de temps en temps, en fait, si tu veux, et qui sont soit faits sans réelle, comment dire, envie, tu vois. Soit fait avec une espèce de complexité.
L'artificialité.
Je mets vraiment de côté les films que moi j'estime être des films de réalisateurs, comme les films de Florent Amy aussi, évidemment. Mais je te parle vraiment des films d'action, des productions, des trucs de producteurs, en fait, si tu veux, qui sont torchés par les réalisateurs de bouge et ce genre de choses, quoi, tu vois.
Non, c'est vrai, il y a une certaine. C'est un film qui a l'air un peu de couler de source, quoi, tu vois. Quoi,
une légèreté.
Ouais, c'est léger. Je pense, moi, que Michel Blanc, qui a été appelé en renfort sur le film a en grande partie amené cette légèreté dans les dialogues. Ça a toujours été, je pense, hein, Michel Blanc, un très bon dialoguiste. Après, pour peu qu'il ait des comédiens qui arrivent bien à mettre ses dialogues en bouche, c'est le cas de Giraudeau et Lanvin qui sont parfaits.
Il chie le charisme déjà.
Ouais, et puis il chie le charisme.
Ah oui, c'est... moi je les trouve vraiment très, très, très charismatiques. Et puis surtout, il y a ce truc de... C'était deux personnages, en fait, qui existaient déjà dans ce domaine-là, en France. Alors, dans des films pas très reluisants, hein, il faut être honnête, tu vois. Même si, bon, il y avait Le Prix du Danger, par exemple, pour Lanvin, déjà. Mais Giraudeau, il avait fait Rue Barbare. Ça, c'est pas des grands films. C'est des films... Bon, moi, Rue Barbare, je trouve ça relativement sympathique, mais ça se prend pas trop le chou, quoi, tu vois. Mais c'est des films qui ont des velléités spécifiques, si tu veux. Et là, en fait, pour le coup, ils glissent dans le film. Ils sont vraiment, comment dire... C'est une évidence, en fait.
Ouais, et donc je disais, ouais, il y a pas mal de punchlines comme ça que s'approprient les deux acteurs, qui sont un mélange d'esprit un peu, enfin, typique de Michel Blanc, hein, c'est-à-dire un mélange d'esprit de Titi Parisien, un peu un temps de jeune des années 80, tu vois. C'est un langage un peu fait sur des répliques du tac au tac, tu vois, quoi, qui s'enchaînent comme ça, quoi. Et Lanvin et Giraudeau sont très bons à ce jeu-là, ils forment un tandem vraiment réussi. Donc ça, c'est une chose, tu vois, quoi. Après, effectivement, il y a l'action à proprement parler, quoi. On l'a dit, mais la longue scène dans les gorges du Verdon au début, quoi. Enfin, bah, moi, je me rappelle de Yannick là, dans son émission, qui gueulait les gorges du Verdon, comme ça. Mais c'est vrai que c'est un lieu.
Yannick, il gueulait sur quoi?
Et il avait parlé des spécialistes.
Ah oui, il parlait de ça.
Ouais, il a dit putain les mecs, mais il a répété trois fois les gorges du Verdon, quoi. Mais c'est vrai, c'est on a des lieux comme ça spectaculaires en France, et où on se dit putain, mais voilà quoi, réapproprions-nous ça à l'écran, quoi. Et donc là, il le fait pas à moitié. Moi, je me rappelle, il y a même un plan à un moment là. Alors il y a toujours la scène spectaculaire où ils sont suspendus à flanc de falaise, tu vois, par les menottes, quoi. Mais après, une fois qu'il est remonté, il y a un plan en plongée où ils sont assis au bord de la falaise et tu vois le 200 mètres de vide en dessous d'eux. Et il y a Lanvin, mais il a les godasses presque qui pendent dans le vide, tu vois, quoi. Donc voilà, ils font du spectacle, ils mouillent la chemise parce que c'est des scènes assez physiques où ils ont beaucoup donné, quoi, les deux acteurs, hein, notamment les scènes dans le torrent là, tu vois, quand ils plongent, quoi. Encore une fois, je crois que dans le cinéma français, c'est assez plaisant d'avoir une scène comme ça d'action aussi longue à l'entrée d'un film. Après, t'as la scène du casse, bon, qui est un peu plus
plan-plan
en dernière partie du film, qui est un peu plus convenu. Mais le film, il y a pas forcément, tu vois, je parlais de le personnage de la femme, que ce soit l'actrice ou le personnage en lui-même, c'est pas ce qui a le plus réussi dans le film, quoi, tu vois, quoi. Elle est un peu là comme une fonction pour leur permettre de d'interagir, quoi, tu vois.
Christiane,
quoi.
Jean, elle est mignonne.
Ouais, oui, c'est une actrice assez assez belle, quoi. Mais bon, le personnage est pas. Tu sais, je me rappelle à la fin, la manière dont on quitte le personnage est très. Les 20 dernières minutes, on la voit quasiment plus, quoi, tu vois, quoi. Donc, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi dans le film. Mais le cœur du projet, l'affiche, tu vois, elle est là, elle est bien là. Les deux acteurs tiennent le défi, quoi, tu vois, quoi. Et c'est ça qui pour ainsi dire, fait le prix du film, quoi.
Il y a un petit film à twist.
Ouais.
Est-ce qu'on révèle le twist ou pas? Je sais pas, ça vaut pas forcément le coup, mais en fait, c'est convenu aujourd'hui, hein, mais c'était un petit film à twist à l'époque, quoi.
Ouais, c'est un twist.
Sur les raisons de pourquoi faire le casse et comment ça se fait que ces deux personnalités se retrouvent, en fait, finalement. Alors, c'est à travailler main dans la main, quoi.
Ouais, c'est un twist. Qu'est-ce qu'on fait? On le dit ou...
Non, bah, ouf, si tu veux, mais vas-y, mais si t'as quelque chose à dire.
Bah, il y a un des deux personnages qui est un flic, quoi, tu vois,
mais qui a monté tout le coup, en fait.
Qui a monté tout le coup, voilà. Mais.
Ça, tu l'as pas pitié, ça, mon vieux.
Ouais, mais bon, peut-être au début, je voulais pas dire le pitch.
Non.
Mais c'est pas un truc. C'est un truc qui est amené progressivement, notamment à travers les réunions de Giraudeau. C'est pas un twist, c'est pas un revirement à 180 degrés, tu vois, où t'es là, ah, tu vois. Les petits. Moi, ça participe aussi de l'humour du film, tu vois. Les réunions en sous-sol de Giraudeau avec son chef, là, qui est joué par cet acteur génial, là, Maurice Barrier, qui était une gueule, une vraie gueule, quoi, du cinéma français des années 80-90, quoi.
Qui est mort l'an dernier,
ouais, et puis que je sais plus, par exemple, j'ai plus en tête là tous les films, mais il a dû jouer dans des Francis Weber, des trucs comme ça. Et il joue ce personnage qui est dans son look totalement improbable, quoi, avec un imper remonté avec le col remonté jusqu'au menton, un bob enfoncé sur la tête, là, un bob en tissu, quoi. Et il a une allure, on dirait un agent secret de cours de récré ou l'inspecteur Gadget, quoi, tu vois. Et Barrier le fait avec sa décontraction et sa badasserie habituelle. Tu vois, et leurs échanges avec Giraudeau sont assez goûtus, quoi.
C'est un acteur qu'on a vu, alors toi, je suis en train de regarder dans Le Gang de Jacques Doré, par exemple, Le Retour de Martin Guerre, bon, les spécialistes, on l'a dit, hein, Le Marginal,
ouais.
Il a pas fait...
Voilà, c'est Les Compères. Je crois qu'il se prend un coup de téléphone dans la gueule de Depardieu ou un truc comme ça, je sais plus.
Ça serait pas de Pierre Richard qui se le prend, le coup de téléphone dans la gueule, c'est sûr, tu vois. Enfin, voilà, c'est effectivement un de ses seconds rôles un peu truculents, quoi. Donc on l'a dit, hein, buddy movie aussi, ce qui est quand même pas finalement assez fréquent, hein, en France. Et certainement pas à cette époque-là.
C'est-à-dire dans ce truc de partager la tête d'affiche avec deux grosses vedettes, tu vois, c'est vrai que Belmondo et Delon avaient tenté le coup une première fois avec Borsalino, tu vois.
Oui, mais c'était pas encore, on n'était pas dans le genre n'existait pas vraiment. Ouais. Là, c'est un peu pensé comme tel, en fait. Si tu veux, c'est les spécialistes, j'ai envie de dire.
Ouais, après c'est aussi que donc Buddy Movie, c'est aussi un film qui régurgite quelques poncifs du genre, tu vois, enfin la figure des deux détenus qui fuient attachés par des menottes là ou par une chaîne. T'avais un film avec Sidney Poitier et Tony Curtis, j'ai oublié
les enchaînés, je crois. Non, c'est pas les enchaînés, parce que les enchaînés c'est le
Hitchcock.
Je
me rappelle plus, mais c'était ça le pitch aussi, quoi. Donc c'est un truc qui est, bah, je crois que le Nous ne sommes pas des anges, qui était un remake déjà d'ailleurs de La Cuisine des anges avec Bogart, là, le Nous ne sommes pas des anges de Neil Jordan avec De Niro,
ouais,
et Champagne.
Il avait cette idée au début,
au début il fuit aussi comme ça, quoi.
Alors moi quand j'étais
l'idée de faire côtoyer deux mecs, enfin l'idée du buddy movie, tu vois, mais par le biais de cette chaîne de prisonniers, l'idée de se faire se côtoyer deux mecs qui peuvent pas se blairer, quoi.
En 1996, quand c'est sorti, en fait, il y avait ce film là qui s'appelait Lien d'acier en français, Fled en anglais,
avec Laurence Fishburne et
Stephen Baldwin. Ouais. J'étais persuadé que quand j'ai vu la bande annonce, tu vois, la première fois, j'étais persuadé que c'était un remake avoué, hein, officiel, hein, tu vois, des spécialistes, quoi. Et en fait, pas du tout, mais réalisé par Kevin Hooks, le réalisateur de Passager 57, voilà, dont on n'a pas fait d'épisode de Stéroïdes. Mais je l'ai revu l'an dernier, je suis pas sûr que ça le mériterait, bref. Et pourtant, c'est un film que je trouvais assez sympathique à une époque, quoi. Donc ouais, Buddy Movie, parce que mine de rien, en fait, c'est-à-dire que c'est un truc, en fait, aujourd'hui qui existe dans le cinéma français, et le cinéma français, on a tendance un peu à râler sur le fait que Bah, en fait, les mecs qui font Top Gun 20 ans après avec les Chevaliers du Ciel. De l'autre côté du périph, c'est le flic de Beverly Hills, mais 30 ans après, tu vois. Donc en fait, on a tendance à gueuler un peu sur le cinéma français en disant putain, mais vous pouvez pas, vous vous sentez obligé en fait de pomper les trucs avec 30 ans de retard, tu vois, ou 20 ans de retard. Là, pas du tout. On était en plein dans cette mode-là à cette époque-là à Hollywood. Hein. C'était les débuts de Miami Vice, ce genre de choses en fait. Et mine de rien, bah, il se posait là-dedans, en fait, ce film. Il avait ce vrai truc de, effectivement, ce renvoi, en fait, entre les deux personnages. L'idée d'associer deux personnages qui sont finalement assez, charismatiques. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre, même si tu sens dans le récit que Giraudeau est censé être un peu plus important que Lanvin, tu vois.
Au début, c'est ça, ouais. Où Lanvin, il se fait constamment engueuler. Tu vois, t'as cette scène là où ils sont à flanc de falaise et puis l'autre, il a la crève et il va pour éternuer, manquant de les faire tomber puisqu'ils sont attachés l'un à l'autre. Et t'as Giraudeau qui lui dit arrête tes conneries, je veux pas crever de la crève d'un autre, quoi. Et donc ouais, ils sont un peu comme ça, quoi, où Giraudeau mène la danse et puis c'est lui qui tire Lanvin derrière lui. Et puis au fur et à mesure du film, ça s'équilibre, où Lanvin Carella prend un peu plus d'assurance, tout
c'est
ça.
C'est Giraudeau qui se lève la pépée.
Ouais.
Voilà, donc ouais. Bon, il y a quand même c'est important dans le genre du cinéma d'action, en fait. Ça définit le premier rôle, presque, j'ai envie de dire, tu vois, voilà, bref. Même si bon, c'est tout est relatif, parce que ça, c'est pareil, c'est traité un petit peu de manière légère par le comte, il s'en fiche un petit peu, finalement. Il n'y a pas vraiment de romance, il n'y a pas vraiment de voilà. C'est tu te poses la question, et puis quand t'as la réponse, finalement, tu fais ok, bon, passons à autre chose, tu vois.
Ouais, c'est pas un film où il y a des conflits dramatiques intenses, tu vois. C'est un film
Les choses sont simples.
Ouais, les choses sont simples et c'est agréable parce qu'en fait, ça a été totalement conçu comme ça et voulu dans cette optique.
Alors, il y a quand même des petits impératifs importants dans le cinéma d'action français, tu vois, surtout des années 80. Tu vois, donc, on est d'accord que satisfaction de revoir le film et de se rendre compte qu'il y a une petite scène de karaté. Tu vois, très rapide, très succincte, mais quand même, elle est là, tu vois. Autant finalement que dans Cross, dont on avait parlé, hein, tu vois, où il y avait une petite scène de karaté, c'était un kick, tu vois, voilà, vite fait, quoi, 10 secondes, tu vois. Là, c'est un tout petit peu plus, tu vois. Mais tu sens que les mecs, ils se disent, bon, alors attends, le mec, il a fait Rue Barbare, l'autre, il a fait Ronde de Nuit, tout ça, etc., etc. Et hop, il faut qu'on mette une savate, quoi, dans la gueule, tu vois. Ils le font. Donc, j'étais content. Merci, Patrice Lecomte. Tu vois. Voilà. Quelques autres plaisirs, les rues de Nice. Mine de rien, en fait, les petites rues de la vieille ville. Hein,
Et puis cette volonté de mettre en valeur un peu d'autres sortes de paysages que la
grisaille parisienne. Hein.
Que la grisaille parisienne, tu vois. Donc, clairement, moi, alors, pour être installé là-bas, qui connaît un petit peu la région, c'est vrai que ça m'a fait marrer quand j'ai revu le film, là, puisque la dernière fois que je l'avais vu, c'était avant de m'installer à Nice, mais ça m'a fait marrer de voir plein de coins de la région. Ils ont fait du beau boulot au niveau des repérages, quoi. Et puis voilà, ouais. Bon, après, c'est vrai qu'à cette époque-là, t'avais un petit peu, t'avais quelques films quand même comme ça. T'avais Joyeuse Pâques avec Belmondo qui avait été tourné à Nice aussi. Ils tournaient pas mal à l'époque, hein, les studios de la Victorine marchaient encore un peu, tu vois, tout ça. Et donc voilà, ouais, c'est appréciable de voir un peu ce genre de. D'autant plus que ce genre de paysage, la Côte d'Azur, ce qu'on appelle la Riviera, ça fait partie, avec Paris, sans doute, des paysages français qui sont les plus réputés dans le monde, quoi, tu vois, quoi. Donc c'est plutôt sympa de voir les Français utiliser ça, quoi, tu vois.
Et alors, il y a une petite rencontre, en fait, sur le film qui est intéressante à exploiter, enfin, intéressante à pointer du doigt, pardon. La rencontre entre le comte et son chef opérateur, Eduardo Serra, qui est, un chef opérateur de talent, si tu veux, qui, je pense, n'est pas...
Qui a fait quasiment tous ses films, je crois.
Voilà, depuis Les Spécialistes, parce que c'est vraiment, je crois, la première fois qu'ils se sont rencontrés. Et qui est un chef opérateur de talent, parce que je pense qu'il est pour beaucoup dans le... le virage esthétique de
Lecomte.
Et notamment, en fait, je pense qu'il n'est pas étranger à la légèreté et à la grâce, en fait, d'un film comme, par exemple, Marie de la Coiffeuse, en fait, qui est très, très... j'ai pas envie de dire éthéré parce que c'est pas le bon terme, mais qui est très évaporé, enfin je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de la comment t'appelles ça, de l'émotion, en fait, si tu veux, sans avoir l'air d'y toucher, qui, je pense, tient aussi énormément dans l'aspect de la lumière, en fait, si tu veux, qui tient au travail d'Eduardo Serra. Et alors, je le signale, l'œuvre d'Eduardo Serra, parce que...
Et puis, je crois que c'est lui qui a ouvert le compte à l'emploi du Cinémascope, il me semble.
Alors, sur ce film-là, en tout cas.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Par contre, sur Tandem, c'est pas un film en Cinémascope, par exemple.
Si, c'est un film en scope, Tandem.
Ah bon ?
Ouais, mais le problème de Tandem, c'est qu'en fait, depuis sa sortie salle, alors je n'ai pas eu le Blu-ray entre les mains, mais je crois que ça y est, c'est réparé. Mais jusqu'à maintenant, il était quasiment invisible en scope. Quoi.
D'accord.
Ouais. Okay. Mais c'est un film en scope à la base. Ça, c'était une vraie volonté de la part de Leconte. Je l'avais entendu en parler. Le fait d'avoir ces panneaux sur les routes, quoi, tu vois, avec le scope large, quoi, c'était.
En tout cas, bon, le mari de la coiffeuse, c'est sûr, tu vois, par exemple. Et surtout, Eduardo Serra. Si vous n'avez pas vu les films de Patrice Leconte, vous connaissez en tout cas son travail sur certains Harry Potter et Incassable de M. Night Shyamalan. En fait, qui pour moi est aussi pour beaucoup pour l'aspect. En fait, je rapproche Le mari de la coiffeuse et Incassable sur ce point, en fait, de l'aspect vraiment, en fait, gracieux, en fait, de la caméra et de la façon dont elle épouse finalement les acteurs et tout ça, etc.
Je me rappelle, il y a quelques années de ça, j'avais fait un statut parce que j'avais découvert le truc, tu vois, quoi, j'en avais pas conscience, quoi. Et j'avais mis, putain, je viens de découvrir que le chef-op d'Incassable est celui de Pino Simplefic.
Mais ouais, c'est ça, avec Gérard Jugnot, c'est assez dingue, quoi. Bon, pour le coup, Pino Simplefic, c'est moins flagrant visuellement, hein. Moi, je dis ça parce que je l'ai revu en plus il y a quelques années, il était sur Netflix. Je me suis dit, tiens, je vais me refaire Pino Simplefic parce que c'est un film que je regardais quand j'étais gamin. Et ouais, c'est pas comment dire, moi je me rappelle cette affiche où il était, comment dire, qui parodie Rambo, en fait, où t'avais Junio à la place de Stallone et tout, puis en fait il avait des gros flingues, des grenades et tout. Et je me rappelle même que j'avais un copain qui m'avait dit, oh, on va regarder le film, il est comme ça dans le film là, ça peut être rigolo, et toi, en fait pas du tout, il y a pas du tout de même de gag à l'intérieur du film sur ça, quoi. Mais mais disons que c'est pas sur ça, moi j'aurais forcément retenu, comment dire, mais là quand tu revois les spécialistes, tu sens le travail quand même qui est là de chez Fop, qui est assez et je pense encore une fois, voilà, qui participe de l'aspect solaire du film, en fait.
Ouais, non, mais j'ai déjà entendu ou vu le comte parler de ça et de dire que ça avait été une rencontre importante dans sa carrière, quoi, que le gars lui avait énormément amené. Et puis voilà, ouais, effectivement, c'est un grand chef-op qui a eu un destin un peu international, quoi. Et c'est vrai que la réussite visuelle d'un film comme Les Spécialistes, on peut aussi le créditer de ça, parce que c'est un film qui, dans sa mise en image aussi, c'est pareil, c'est un film assez simple mais direct et efficace avant tout, quoi, tu vois. Donc voilà, donc c'est un très bon film à recommander.
Tout à fait. Et alors il y a ce truc, en fait, qui est aussi important de signaler, c'est que c'est la première, donc on l'a dit un petit peu en début de podcast, mais c'est la première fois donc qu'il change de registre, c'est-à-dire, et finalement c'est quelque chose qu'il va faire régulièrement plus tard dans sa carrière, en fait, Leconte. Et mine de rien, ça manque énormément dans le cinéma français, ça. C'est-à-dire quelqu'un qui soit capable, justement, dans ce cinéma d'auteur français, et là je parle d'auteur au sens large, hein, y compris pour des gens de qualité, hein, tu vois, ça change, en fait, de se dire qu'un mec comme Leconte est capable de passer vraiment d'une comédie à un drame, à une comédie dramatique, à un film d'action, à tout un tas de genres différents, film choral, film d'un seul personnage, deux personnages, des destins. Par exemple, moi, je pense à L'Homme du Train, tu vois. C'est dingue, en fait, de voir quelqu'un qui est capable de passer d'un sujet à l'autre, en fait, avec une aisance, finalement, que j'ai l'impression peu de gens lui accorde, en fait. D'ailleurs, généralement, les mauvais films de Leconte, c'est les films qui sont lourds, en fait. C'est-à-dire, je pense par exemple au Bronzé 3, où tu sens qu'il y avait toute une espèce de lourdeur de logistique, en fait, à essayer de faire ce film, de réunir tout le monde tu sentais le poids, en fait, de faire la suite des Bronzés 25 ans après, etc., etc., tu vois. Et ces films-là, ils ne marchent pas parce que justement, il manque cette espèce d'évidence, en fait, dont Leconte s'est fait, pour moi, le chef de file, en fait, si tu veux, du cinéma français.
Ouais, et puis encore une fois, je pense que il le fait régulièrement, Leconte, mais il remercie Christian Fechner de lui avoir offert cette opportunité, parce que, mine de rien, c'était, à cette époque-là, les mecs qui étaient spécialisés dans l'action, c'était des types très typés, c'était Verneuil, c'était Lautner, c'était des mecs qui commençaient à avoir un peu de bouteille, quoi. Et ça a été la bonne idée de Fechner de se dire, tiens, le gars des Bronzés, je vais lui filer un film d'action, quoi, tu vois. On va tenter le coup, quoi, tu vois, pourquoi pas, quoi. Et bon, évidemment, c'était quelqu'un avec qui il avait déjà travaillé, quoi, tu vois, mais il fallait néanmoins avoir cette intuition-là, quoi. C'était encore une fois, le compte sur, sur les spécialistes. Lui, quand il parle du tournage, il est toujours très... enfin, pour lui, c'est que des bons souvenirs. Le film s'est fait, ça a été du boulot, mais il s'est fait simplement. Tu vois, il s'est fait. Tout le monde était en osmose. C'est pas, ça n'a pas été un film à problème. Ça a pas été. C'est un film qui, en fait, du début de sa conception, de son idée, tu vois, jusqu'à la sortie en salle, a été un véritable plaisir, quoi.
Et c'est notre copain Laurent Péchat qui a fait une interview qu'on trouve sur YouTube, hein, qui est assez marrante, bah, assez rapide, hein, parce que c'est une interview carrière, mais qui se fait sur 2-3 parties d'une dizaine de minutes chacune, quoi. Mmh. Et en fait, qui lui pose la question sur une éventuelle suite, comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu de suite aux spécialistes, parce que ça ferait 5 millions d'entrées, ça pouvait sembler évident d'en faire une, et surtout pour quelqu'un comme Fechner, c'était quand même. Faut le dire aussi, il avait un gros côté de tiroir caisse, hein, Fechner, quoi. C'est marrant parce que apparemment, ni Giraudot, bon, qui lui est décédé maintenant, hein, depuis une dizaine d'années, ni comment dire, Lanvin, ni Fechner, ni Patrice Lecomte se sont posés la question. Mm. Apparemment, ils en ont jamais parlé entre eux, et ça démontre bien que, en fait, finalement, si c'est pas une évidence. C'est pas la peine de le faire
Ouais, le film est resté. Le film sans doute se suffisait à lui-même, quoi.
Voilà.
Voilà, ouais, c'est ce qui fait que maintenant, ben, presque 40 ans plus tard, on arrive à l'idée de faire un remake, quoi. Parce que bon, voilà, c'est à peu près la vie qu'il a eue pendant 40 ans. Il a bien vécu le film, quoi. Mais mine de rien, c'est duré sur une telle période, quoi. C'est pas anodin non plus, quoi.
C'est pas anodin. Et puis en fait, bon, après, il y a aussi l'idée de, je sais pas si, je pense pas que ça soit la logique forcément de Guillaume Le Mans, hein. Mais en tout cas, c'est probablement la logique des financiers. D'avoir un titre en fait qui représente quelque chose de qualitatif, si tu veux, mais qui représente quelque chose qui résonne aux yeux du public français. Pour se dire, ah oui, un remake d'un film comme ça, ah oui, c'est quoi déjà, oui, c'est le film de Giraudot et Lanvin, oui, je vois ce que c'est, etc., etc. Donc c'est le film reste effectivement pour ça, donc ça semble cohérent aussi de le faire pour des raisons de pérennité, on va dire.
Ouais, surtout qu'en plus, Giraudot et Lanvin, c'est des acteurs après qui ont fait un peu leur carrière, tu vois, dans les années 80, notamment dans des films d'action. Ils ont continué à en faire chacun de leur côté, tu vois. Je sais pas, par exemple, Giraudot, il a fait Les Longs Manteaux, tu vois. Lanvin, je sais plus encore ce qu'il a fait.
Juste après, c'était des trucs genre Saxo, je crois.
Mais c'est vrai que c'est plus la première partie des années 80 pour Lanvin, l'action. Mais après, tu vois, on peut pas dire que c'est des mecs qui avaient pas de problème à retourner ensemble. Bon, alors le film, c'est pas du tout le même registre, mais Nicole Garcia les a fait se retrouver
Le Fils Préféré.
Une dizaine d'années après, tu vois, dans Le Fils Préféré, qui était un drame familial avec Jean-Marc Barre, où il jouait trois frères. Et voilà, mais c'est vrai que, ouais, apparemment, tu peux imaginer que dans ce film-là, quand ils discutaient entre les prises, puisqu'apparemment ils s'entendaient très bien tous les deux, ils auraient pu évoquer une suite des spécialistes, mais surtout que 10 ans après, ils étaient encore bien, tu vois, ils étaient encore frais, quoi, ils auraient pu le faire. Mais toujours est-il que, ouais, le comte a dit, c'est comme ça que ça s'est passé, personne n'a jamais évoqué le truc, quoi.
Ils auraient dû se poser la question sur les bronzes étroits.
Ouais.
Mais j'ai pas envie de rester sur une note négative parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Patrice Lecomte, et c'est vraiment un cinéaste.
Tu l'aimes bien, ton petit Patrice. Hein.
Patoche. Non, mais c'est vraiment un cinéaste de qualité. Et
c'est un mec adorable.
On le sait, on le sait en fait que c'est quelqu'un de qualité dans l'absolu, c'est-à-dire qu'il a quand même une bonne aura dans le cinéma français, mais pas forcément pour les. Je pense pour les raisons qui sont finalement. Me semble pour moi évidentes en fait.
C'est-à-dire moi je trouve que. Moi, personnellement, à l'époque, quand il a enquillé ses trois films suivants là, des spécialistes, la Tandem, Monsieur et Le Mari de la Coiffeuse, c'était le trio royal, quoi. C'était vraiment, pour moi, c'était un peu l'équivalent de ce qu'avait fait Eastwood au moment de Impitoyable, Un Monde Parfait, Sur la Route de Madison. C'est-à-dire enchaîner trois films comme ça qui soient de tels aboutissements, quoi, pour moi, quoi.
Et j'ai oublié La Relève.
Bah, La Relève, c'était Les Spécialistes, quoi, tu vois.
Ouais.
Mais c'est un type qui a une voix à part, en tout cas. C'est ça, hein, Tandem, faire cette sorte de version de Don Quichotte et Sancho Panza, tu vois, sur les routes de France, dans les petits villages, les autoroutes, les trucs comme ça, quoi. Il fallait le faire, vraiment, quoi. Et c'est quelqu'un, en tout cas, qui s'est toujours remis en question, même qui, des fois, a décevoir. Moi, je me rappelle qu'après, à trop aller vers le versant film d'auteur, ou vers des trucs vraiment à part, tu vois, il s'est un peu grillé les ailes sur des films comme Le Parfum d'Yvonne, là, qui est absolument très ennuyeux. milieu, quoi, tu vois.
Non, mais, il essayait, en fait. C'est
ouais,
ça, le truc,
Tango, il s'était essayé à faire du
s'oublier.
Du s'oublier, tu vois. Bon, alors, il y a 2-3 morceaux rigolos, tu vois, parce qu'il y a quand même des acteurs haut en couleur, tu vois. Mais bon, ouais, il s'est essayé à des. Moi, je me rappelle, il faudrait que je le revoie, si, mais j'avais bien aimé La Veuve de Saint-Pierre avec Juliette Binoche et Emir Kusturica, qui était un truc qui se passait en Islande, dans le Grand Nord, sur une île au 19e siècle, avec l'échafaud qui doit arriver de la France pour couper la tête de quelqu'un. Mais c'est peut-être à Saint-Pierre-et-Miquelon, je sais plus. Bon, bref. Mais voilà, c'était un type, à chaque fois, tu le retrouvais sur des projets qui ne ressemblaient
à. Atypique.
Atypique, quoi, tu vois. Et je pense que c'est ce qui a fait que. Disons que Fechner a senti que le polymorphisme un petit peu du bonhomme pouvait
c'est dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui vient de la BD en fait à la base,
c'est vrai.
Donc
c'est
le truc
BD,
c'est que c'est quelqu'un
qui a fait même un dessin animé,
il a fait un film d'animation, enfin voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a un touche à tout. Et en général en France, bon, c'est moins bien vu que quelqu'un qui reste dans les clous, quoi. Mais voilà, donc c'est méritant, quoi.
Il est marrant parce qu'il le fait avec beaucoup de simplicité, il le met pas forcément en avant, ça, à dire ah, mais moi je suis un papillon qui vole de fleur en fleur, tu vois, des trucs comme ça. Il en a pas forcément conscience, en tout cas dans les interviews qu'il donne, quoi. Il se met pas en avant par rapport à ça, tu vois. Il est souvent même à s'auto-dénigrer, quoi.
Oui, alors jusqu'à un certain degré, par exemple, il a fait du théâtre. Moi, je me rappelle d'une de ses, il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années peut-être, hein, il était passé chez Ruquier et il s'était fait démonter la gueule par Zemmour. Alors pas Nolo, parce que je crois que Nolo n'avait pas vu le truc, mais c'était leur grande époque là, le duo là. Et en fait, si tu veux, ce qui était assez marrant, c'est que c'était une séquence qui durait peut-être 10-15 minutes, tu vois, où Zemmour y allait, mais à la Zemmour, quoi, comme un gros dégueulasse, quoi, à mon sens, hein, personnellement, c'est un mec que j'exècre, quoi. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que en fait, tu te dis, putain, il est sport, il prend le truc dans la gueule, tu vois. Alors qu'on sait qu'il a quand même des déconvenues avec la critique, hein. Le Comte, hein,
À une époque, il s'est mis en tête de tous les cinéastes là, qui gueulaient contre les critiques. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, tu te dis, bon, il le prend assez sport, tu vois, le truc. Et en fait, pas du tout. Il lui fait une. Il lui dit, écoutez, moi, j'ai juste une chose à vous répondre. Et puis, il lui fait une espèce de petite fable de La Fontaine où il raconte une histoire. Alors, je suis sûr qu'on la trouve sur YouTube, en fait, ce truc, parce que c'était quand même assez savoureux. Et en fait, il lui dit. Oui, en fait, c'est une hirondelle et un corbeau qui chantent et qui d'un seul coup n'arrivent pas à se départager pour savoir lequel des deux chante le mieux, tu vois. Et un cochon passe par là et il lui demande, tu vois. Et le cochon écoute, il dit ah oui, en fait c'est le corbeau qui chante le mieux. Et là l'hirondelle se met à pleurer. Et le cochon lui dit mais pourquoi tu pleures? Tu pleures parce que tu n'es pas le premier, parce que je t'ai pas choisi. Et l'autre lui répond non, je pleure parce que j'ai été jugé par un porc. Et ça, il l'adresse à Zemmour. En fait, c'est cette fable que le comte adresse à Zemmour de manière assez légère, mais pour insulter le mec qui lui en a mis de plein la gueule pendant 15 minutes.
Ouais,
quoi.
Bon, curieusement, pour le coup, c'est une des rares fois où je l'ai vu, justement.
Parce que c'est quelqu'un qui est capable de le faire avec une vraie légèreté et une vraie.
Ouais, mais dans la confrontation, parce que c'était quelqu'un qu'en général.
C'était presque pas de la confrontation, justement. C'est ça que je dis, en fait. C'était juste. Je t'ai laissé parler pendant 15 minutes. Voilà ma réponse, quoi. C'est tout, tu vois. C'était presque pas c'était pas une confrontation. C'est ça qui est très fort avec lui, quoi. Voilà. Donc Les Spécialistes, sorti en Blu-ray chez Studio Canal, hein. Copie propre, zéro bonus, je pense que le film se.
C'est l'éditeur, parce que je pense que le comte, il est toujours prêt à se décarcasser pour
parler du film,
pour parler de ses films en général.
Toujours disponible.
Ouais, il est tout. C'est quelqu'un qui est hyper disponible. Je sais pas combien il a donné d'interviews dans sa carrière, ce mec. Mais, non. Donc ouais, c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas fait un petit peu de travail éditorial là-dessus, quoi.
Mais bon, enfin voilà, le film vaut le coup. C'est vraiment sympa. Ça pète pas plus haut que son cul. Et c'est exactement. Enfin, s'il y avait 10 films français comme ça par an, on serait tranquille, quoi. Merci Arnaud.
Merci à toi.
Merci Alain, merci à la technique qui va s'étouffer dans ses sanglots. Voilà, parce qu'il est en train d'éternuer de partout. J'espère que vous ne l'entendez pas. Merci aux auditeurs, merci aux tipeurs en fait qui nous soutiennent. Pour nous soutenir, justement, c'est Tipeee.com, 3e à Tipeee. Et les mots-clés sont Capture Mag. Vous pouvez nous écouter sur tous les agrégateurs de podcasts habituels. On revient avec des vidéos. On a fait Tango et Cash récemment. On a fait une aussi, je crois, sur Charles Bronson. Enfin, j'ai dit je crois, je le sais, puisque c'est Arnaud qui l'a écrite. Charles Bronson, monté par Cédric Fontana. Et puis, on va venir avec d'autres sujets. On verra bien ce que c'est, quoi. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine avec un bon film français, un mauvais film français, Arnaud. On verra.
On verra.
Qui sait.
Flex Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.